Europe 1. Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Catherine de Médicis, ce sont 15 années d'un règne marqué par les conflits entre catholiques et protestants et définitivement frappé du sceau sinistre du massacre de la Saint-Barthélemy. On a voulu, au fil des siècles, faire de cette reine un démon, puis une sainte. Balzac, lui, en fait une héroïne antique, Dumas, une sorcière. Les historiens contemporains se sont appliqués à modérer ces approches, sans vraiment mettre la pleine lumière sur l'un des aspects les plus sombres de la reine, à savoir son rapport à l'astrologie et à la magie, et l'usage qu'elle en fit. C'est cette facette du personnage que nous allons interroger aujourd'hui dans un épisode en deux parties. Première partie, une reine en phase avec son temps. En cette soirée d'hiver 1569, Charles IX, roi de France, a tenu à inviter les personnalités les plus prestigieuses de la cour. Il leur a proposé d'assister au meilleur tour de passe-passe de son magicien attitré, un nommé Trois Échelles. Monsieur de Mazille, premier médecin du roi, le grand Ambroise Paré et l'amiral de Coligny, conseiller de la cour, sont tous présents et suivent attentivement les gestes de l'escamoteur. Catherine de Médicis, mère de Charles IX, est absente. Elle n'aime pas ce Trois Échelles, qui jouit de la faveur de son fils, mais a tendance à le distraire de ses obligations. La séance terminée, Ambroise Paré, enthousiaste, demande à Trois Échelles d'où il tient ce prodigieux talent. Auprès de qui l'a-t-il acquis? Combien de temps lui a-t-il fallu pour mettre au point ses tours? Trois Échelles, flatté et grisé par son succès, explique qu'il ne tient son savoir de personne ici-bas. Un court instant, un silence flotte sur la petite assemblée. L'amiral de Coligny, protestant à la fois solide, austère et peu enclin aux élucubrations mystiques, suggère à Trois Échelles d'en dire un peu plus. Le magicien, sans doute persuadé que cette confession achèvera de conquérir son auditoire, explique que oui, ce n'est pas un être de chair qui lui a enseigné son métier, mais un esprit infernal avec lequel il a noué un pacte. Et que cette alliance était nouée pour un bail de 3 ans, durant lesquels il lui serait donné de faire des merveilles. Malheureusement pour Trois Échelles, Charles IX, s'il aime les tours de passe-passe, n'aime pas les diableries. La simple idée de possession démoniaque le terrorise. Trait de caractère qui le différencie de Catherine de Médicis, sa mère, que ces phénomènes fascinent. C'est d'ailleurs assurément, sans qu'elle le sache, qu'il décide de faire arrêter Trois Échelles et de le faire juger pour sorcellerie. Au procès, le malheureux, épouvanté à l'idée de passer sous la torture, avoue tout ce qu'on lui suggère d'avouer. Sabbat, sacrifices humains, orgies, débauches accompagnées du nom des complices, tout y passe. Il se fend même d'une description précise des recettes de cuisine destinées à préparer les poisons et onguents dont il se sert pour liquider les gêneurs. L'amiral de Coligny, qui assiste au procès, est lui-même stupéfait de ses aveux. L'un de ses valets se sert de ces mixtures décrites par Trois Échelles et il a appris dernièrement que 2 gentilshommes de sa connaissance étaient morts après qu'on en ait saupoudré leur lit. Oui, il le certifie, ces 2 malheureux ont été retrouvés inertes le lendemain, noirs et horriblement enflés. Les magiciens royaux jouissent alors d'une certaine impunité, mais Trois Échelles a été au-delà de la limite acceptable. Durant l'année 1571, il est mis à mort à Paris, place de Grève, pour sorcellerie. Catherine de Médicis ne partage pas la répulsion de son fils pour ses sorciers et mages qui, tout au long du XVIe siècle, vont infester la société française. Tout au contraire, elle s'applique, lors de ses 15 ans de règne et de régence, à fréquenter leur savoir, à solliciter leurs conseils, à encourager leurs pratiques. Elle n'est pas un cas isolé. À Paris, à partir des années 1550, tout le monde, ou presque, a recours aux artifices de la magie. La capitale ne compte alors pas moins de 30 000 alchimistes déclarés. Certes, la réforme protestante suscitée par Martin Luther en Allemagne a fait souffler un formidable vent de raison, de rationalisme sur les esprits. Mais le conflit ouvert entre protestants et catholiques a créé une brèche dans la société et dans les esprits par laquelle s'engouffrent de nouvelles pratiques issues des profondeurs de l'ancien paganisme. Et puisque le Dieu chrétien se montre aussi incapable d'intervenir dans l'histoire des hommes et d'assurer leur unité dans la foi, eh bien, c'est vers les divinités païennes qu'on se tourne en désespoir de cause. Il n'en faut pas plus à l'Église pour dénoncer la présence du diable et sa venue sur terre. Au nom du Dieu chrétien, on rallume les bûchers pour extirper le démon des entrailles d'une société qui s'est détournée de la vérité.
Depuis des siècles, les psaumes, les humiliations, les prières et les jeûnes n'ont rien produit pour l'amoindrissement des misères humaines. Donc, il faut s'attacher Satan, obtenir sa protection, ses faveurs, en lui dressant des autels, en lui organisant des messes spéciales, en lui dédiant des victimes par le poison et par le fer, par l'envoûtement et l'inceste, par le viol et la sodomie. Au plein chant des cathédrales, on substituera le sifflement aigu des flûtes en tibia, et l'encens subtil et vaporeux enveloppant les saints au sourire béat sera remplacé par des monstres ricanants dans leur cercle d'airain.
Dans une Europe secouée par la discorde religieuse, les diableries, pourchassées par l'Église de Rome, trouvent tout naturellement refuge auprès des rois. Mais parmi les grands de ce monde qui, chacun selon sa nature, trouvent réconfort et conseil auprès des esprits infernaux, il en est une qui va porter la manie à son paroxysme, et bien c'est Catherine de Médicis. Au moment où elle apparaît dans l'histoire, la France est envahie de sorciers, astrologues, alchimistes, cartomanciens qui rivalisent de prodiges pour prédire l'avenir et avertir les monarques, faire revenir les morts ou révéler des complots. Les plus célèbres d'entre eux ont pour nom Corneille Agrippa, Jérôme Cardan, Ruggieri le Vieux et, bien sûr, Michel de Notre-Dame, le fameux Nostradamus. Mais pour mieux comprendre les liens entre Catherine de Médicis et la magie, il faut revenir un peu en arrière. Catherine de Médicis arrive en France en 1533. Elle a alors 14 ans. Elle vient en France pour épouser Henri, fils de François Ier. Cette alliance est destinée à rapprocher le roi de France de la papauté romaine. Catherine compte déjà deux papes dans sa famille. Les prétentions de François Ier en Italie sont d'autant plus fortes qu'il est, rappelons-le, Visconti par ses ancêtres, et qu'il rêve d'Italie. Catherine, de l'aveu de tous ses contemporains, est plutôt petite, laide et peu bavarde. Son mariage avec Henri ne lui permet pas de nourrir d'ambition particulière, car le jeune homme en 1533 n'est pas promis à succéder à son père, il n'est pas le fils aîné. Elle va pourtant s'appliquer à imposer sa présence avec d'autant plus de détermination que François Ier a une certaine sympathie pour elle. La plupart des chroniqueurs contemporains de Catherine de Médicis s'accordent sur le fait que son tempérament s'obscurcit considérablement dès les premières années de son mariage, et c'est qu'elle ne parvient pas à avoir d'enfant. Durant cette marche au calvaire, qui va durer 10 longues années, elle affronte l'hostilité de la cour. En 1536, le dauphin meurt, et la voilà promise à devenir reine de France. Alors pour éviter la répudiation, il lui faut absolument un héritier. Elle commence par consulter les médecins de la cour. En vain. Ces derniers, suivant la pente naturelle, à l'époque prodigue des conseils de plus en plus saugrenus. Et c'est donc en désespoir de cause qu'elle va s'ouvrir au conseil des devins. On lui prépare alors des filtres où se mélangent mandragore, pervenche, vers de terre, urine de mouton, poudre de testicules de sanglier tués durant la pleine lune. Dans ses ordonnances à l'ancienne, un peu étranges, il est prescrit également de ne pas voyager à dos de mulet. car le mulet est un animal stérile, donc si Catherine monte à dos de mulet, immanquablement la stérilité de l'animal se communiquerait à elle. Elle doit porter, attachée à la ceinture, des cendres de grosses grenouilles. Les mois passent, mages et sorciers lui suggèrent des remèdes extravagants. On lui demande de manger la chair de l'anus d'un fœtus né 2 mois avant terme, une patte arrière-gauche de belette, de la poudre de corne de cerf mélangée à de la bouse de vache, et surtout, avant chaque coup de partie. Un coup de partie, c'est la façon pudique dont à l'époque on qualifie un rapport sexuel. Eh bien, on lui enjoint de boire un verre de lait de jument et d'accrocher un majeur de fœtus à sa taille dans une ceinture de poils de chèvre. C'est finalement Jean Fernel, prestigieux médecin de la cour, qui va trouver le remède miracle. Non, Catherine n'est pas stérile. Son mari et elle ont seulement une particularité anatomique qui empêche la semence de gagner son but. Que les deux époux changent de position et l'affaire sera réglée. L'histoire ne dit pas quel commentaire fit l'Église de France lorsqu'on sut que Fernel avait conseillé à Henri II et Catherine de Médicis une façon de faire l'amour qui, pour le moins, n'était pas très catholique. À partir de la naissance de son premier enfant, Catherine se montre rassérénée. Mais durant ses 10 années de stérilité, elle a pris l'habitude de consulter les mages. Elle prend les avis réguliers d'un astrologue florentin, Gabriel Simeoni. En 1547, ce dernier organise pour elle une séance de magie en présence de Madame de Gondi, gouvernante des enfants de France. Catherine est alors enceinte. Elle voudrait de Simeoni l'assurance que son enfant se portera bien. Lors de cet obscur rituel conjuratoire, Simeoni révèle à Catherine que l'enfant qu'elle porte est une fille et qu'elle naîtra en bonne santé. Aussi, c'est tout naturellement que Catherine, devenue dauphine de France, s'enquiert de savoir ce que deviendra son mari Henri II, destiné à porter la couronne. Elle demande à un vieil ami de sa famille, Luc Gaudry. Ce mathématicien est aussi un astrologue de renom. Il s'est fait connaître par des prédictions stupéfiantes, comme celle de la mort du pape Paul III. La famille Médicis à Florence s'est attachée à ce précieux personnage, dont le talent ne s'est jamais démenti. Il a prévu l'accession de Jean de Médicis au trône de Saint-Pierre. Le pape sera coiffé de la tiare sous le nom de Léon X. Il a prédit également à Jules de Médicis une vie de débauche et d'infamie, et en effet, le dit Jules lui aussi sera fait pape et aura, dit-on, plus de 30 enfants naturels. Catherine consulte donc Gaudry au sujet d'Henri. Quel sera son tempérament une fois couronné? Que lui arrivera-t-il?
Le dauphin parviendra sans peine au pouvoir royal. Son avènement au trône sera marqué par un duel sensationnel. Un autre duel mettra fin à son règne, en même temps qu'à sa vie.
La prédiction de Gaudry est publiée à Venise en 1552. Le mage envoie en outre une lettre à Henri, où il lui recommande
d'éviter tout combat en champ clos, notamment aux environs de la 41e année, parce qu'à cette époque de sa vie, il était menacé d'une blessure à la tête qui pouvait entraîner rapidement la cécité ou la mort.
Catherine est épouvantée. Henri, lui, se montre un peu troublé. Puis à son entourage qui s'alarme, il déclare que oui, peut-être en sera-t-il ainsi, mais qu'il lui importe par-dessus tout de mourir bravement et avec honneur. La prédiction, malgré tout, a ébranlé la cour. Catherine, déjà peu expansive par nature, sombre dans une noire mélancolie. Elle fait appeler Gabriel Simeoni, auquel elle avait déjà eu recours lors de ses années de stérilité. Le vieux mage, que François Ier consultait déjà en son temps, est devenu un homme de cour, peu enclin à contrarier les espérances de ses clients. Soucieux de garder sa place et son influence, il se contente de confirmer les prédictions de Gaudry, dont il connaît le prestige et qu'il ne veut pas se mettre à dos. C'est à ce moment précis qu'entre en scène l'astrologue, dont le nom va rester dans l'histoire, Nostradamus. Il a publié en 1555 un recueil de prophéties, Les Centuries. Henri, qui a eu vent de cette publication, se procure l'ouvrage. Quelle n'est pas sa stupeur en lisant ce quatrain.
Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel. Dans cage d'or les yeux lui crèvera, deux classes, une seulement, puis brisure, mourir, mort cruelle.
Pour le coup, Henri est très inquiet, il fait venir Nostradamus à la cour. Le mage lui confirme la prédiction. L'année suivante, Gaudry meurt, et c'est tout naturellement Nostradamus qui, sur l'ordre d'Henri, devient conseiller ordinaire du roi en qualité de médecin astrologue. Catherine de Médicis vit dans l'angoisse de ses prédictions. Vont-elles se réaliser ? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré à Catherine de Médicis, reine et sorcière.